La Petite Radio.
Salut à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio. Bonjour Tiffaine.
Alors, salut Dorsa.
La quarantaine sereine?
Ouais, c'est top, écoute, en 15 jours, là, ça fait 15 jours que j'ai 40 ans, écoute, qu'est-ce que j'ai eu? Des trucs formidables, j'ai eu 2 gastro et une réaction allergique sévère avec hospitalisation d'urgence, électrocardiogramme et tout. Donc vraiment, la quarantaine, c'est top, hein, je vous le conseille.
Je t'ai dit qu'il y a quand même l'envers du décor hein, pour les 40 ans.
Ah bah c'est sûr, moi j'aimerais bien voir l'endroit. Voilà, comment commencer à voir l'endroit.
Alors, pour ce 12e épisode, nous avons un invité aujourd'hui, Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour mesdemoiselles.
Comment ça va?
Ça va bien.
Alors, on avait très envie de te rencontrer depuis un petit moment, c'est vrai, pour une interview exclusive pour La Petite Radio. Alors Lionel, tu habites en Uruguay depuis plus de 3 ans maintenant.
Oui.
Tu es arrivé ici en famille avec ta femme que je connais, que j'embrasse très fort, Stéphanie. Et tu as 3 filles.
Oui.
Voilà, donc heureux papa. Tu occupes ici le poste de chef de sécurité de l'ambassade de France. Donc déjà, Tiffaine, on devrait se sentir en sécurité avec lui. Hein. Donc tu sens la protection approchée là.
Puis en plus avec les gros muscles et les tatouages là.
C'est vrai, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais là on se sent quand même en sécurité.
Hein. C'est
en
surtout principe, pour les auditrices que c'est dommage.
Hein. Faut pas se fier aux apparences quand même.
Alors, ton parcours professionnel est plutôt atypique et c'est ce qui nous a donné envie de te rencontrer. Alors, dans les grandes lignes, tu as obtenu pas mal de concours professionnels, dont le RAID en 98, ministère des Affaires étrangères, garde de sécurité diplomatique en 2002, brigadier chef en 2004, major en 2008, etc. Et les décorations ont suivi, puisque tu as obtenu, entre autres, l'Ordre National du Mérite et la Médaille de l'OTAN,
oui.
Donc qui est une décoration militaire.
Beaucoup de chance.
De l'OTAN, l'OTAN, le journal suisse.
Ah, tu connais.
Letemps.ch, alors.
Non, c'est pas pareil, c'est l'OTAN.
L'OTAN,
on emporte le vent, voilà. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu as vécu dans plusieurs pays jugés comme des territoires difficiles.
C'est un euphémisme, effectivement. Alors attendez, on va voir les cités.
En gros, il y a eu le Congo, l'Afghanistan, Djibouti, le Liban, le Pakistan et la ville de Bordeaux. On ne sait pas pourquoi, ça fait un peu tâche. Pourquoi Bordeaux dans ton parcours?
C'était à l'époque des travaux du tramway, donc c'est vrai qu'on aurait dit un territoire de guerre à ce moment-là.
Non, moi je pense que t'as dû avoir soif à un moment donné et que t'as voulu emprunter la route des vins.
J'adore le vin, ouais, c'est vrai. Et le golf aussi, il faut dire qu'à Kaboul, il y avait un golf.
Ah oui.
Mais il était relativement pourri. C'était
mais la guerre rigolo. Du golf, c'est plus bas quand même.
Oui.
C'est pas à Kaboul.
Ouais,
c'est ah ça. D'accord, ouais. Hein. C'est pas le même golf, quoi. On parle pas du même.
Tiffaine, j'adore ton humour. Tu
vois. Magnifique. Hein. Non, alors justement, Kaboul, on a très envie que tu nous en parles. Tu as passé combien de temps à Kaboul hein?
Kaboul, j'ai passé 4 ans, mais faut dire que j'ai fait plusieurs missions avant. J'ai connu des époques en 2002, aux alentours de 2002. Qui était assez difficile. Et après, j'ai pris un poste de permanent, chef de la sécurité de l'ambassade de France, avec une trentaine de policiers sous mes ordres. Et on assurait la sécurité de l'ambassadeur, de l'ambassade. Puis voilà quoi.
Donc 4 ans au milieu des talibans quand même.
4 ans, non, après les talibans, mais par contre avec beaucoup d'attentats.
Avec, au milieu d'Al-Qaïda. D'ailleurs, en fait, non, toi t'es un grand romantique. Hein, parce que qu'est-ce que
ça où toi?
Non, parce qu'on quand même. Non, ce qu'il faut savoir sur Lionel, c'est que Lionel a travaillé à Kaboul. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait à Kaboul, qui est quand même extraordinaire, parce que je pense que c'est ce que m'a confié Stéphanie. Je pense que vous étiez les seuls à l'avoir fait dans toute l'histoire de l'Afghanistan. Qu'est-ce que tu as organisé?
Ah oui, c'est vrai.
Ah
ça.
Oui, je lui ai fait la surprise de la demander un mariage.
Il faut le faire quand même.
À Kaboul, ouais, effectivement.
Ils se sont mariés dans l'ambassade. Il a organisé en zone rouge. C'était zone rouge.
Ouais.
Donc, autorisation spéciale tout pour qu'elle vienne en Afghanistan.
Ça n'a pas été facile, ouais, mais bon. Ouais.
Et là, bam, mariage.
T'as réussi à te marier à Kaboul, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même original. Alors, je ne sais pas si ça fait rêver beaucoup de meufs. Hein, quand
non,
même.
Non, bah, ça fait rêver la sienne.
Bah voilà, tant mieux.
J'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable, en fait, parce que. Elle me demandait comment c'était. Bon, on avait Skype, on se voyait quand même. J'étais dans ma petite chambre.
Avec ton gilet pare-balles.
Avec mon gilet pare-balles à côté.
C'est vachement romantique.
Les flingues partout, les grenades.
Les flingues. Est-ce que tu veux m'épouser avec un Kalachnikov sur la tête?
Et donc, ça a été très bien que, avant de repartir de Kaboul, elle voit où je vivais, comment je vivais, dans quelles circonstances. Et et en même temps, c'était l'originalité du truc, quoi.
Ouais, non, puis elle a quand même... elle te fait quand même vachement t'aimer pour oser venir à Kaboul te voir
accepter. Ouais, elle est vachement curieuse, quand même. C'est ouais.
Elle est aventurière, hein, je la connais bien, c'est vrai. Mais donc, elle a dû flipper,
donc,
quand même.
Comme témoin, bah, il avait un mec qui s'appelait Oussama. Bon, malheureusement, qui n'est plus parmi nous, mais...
Oussama, it rings a bell.
On l'appelait Ben. Ben, entre nous.
C'est Benny, mais oui, c'est ça. Et puis, alors, est-ce que tu aurais des anecdotes un peu, pas forcément à Kaboul, mais enfin des anecdotes qui te sont arrivées
Avant, je vais parler d'un instant un peu grave, mais pour remémorer à tout le monde tous les attentats qu'on a subis en France, notamment faire une dédicace à tous les gens qui sont morts lors de ces attentats, pour pas qu'on les oublie, spécialement un de mes meilleurs amis qui s'appelait Franck Brasolaro, qui était un de mes collègues. Mes frères d'armes, on va dire, en Afghanistan, que j'ai connu aussi au Congo, et qui fumait deux paquets de clopes par jour. Et je lui disais tout le temps, toi, tu as échappé à des tonnes d'attentats, tu mourras d'un cancer du poumon. Et non, il est mort lors des attentats de Charlie Hebdo. Il était à la sécurité rapprochée de Charles, le patron de Charlie Hebdo.
Ouais, Charlie Hebdo, oui. Voilà, donc, en fait, c'est là aussi, d'ailleurs, qu'on s'est vu la première fois.
Ouais.
Parce que un peu partout, après, dans le monde, il y a eu des commémorations d'organiser. Mm-hmm. Et on s'est vu placer à Independencia, Montevideo. Mm-hmm. Effectivement, oui. Ça fait partie du métier
partie,
aussi.
Ouais. Ouais.
Petit destin grave, donc, il fallait quand même le rappeler.
Non, tout à fait. Donc, c'est pas un métier important. Facile que tu as. Et donc, tu es ici en Uruguay. Donc, ici, l'Uruguay, ça doit te paraître quand même super tranquille par rapport à ce que tu as vécu.
Ouais, mais bon, c'était l'occasion pour une fois d'être en famille et puis de vivre un peu avec ma femme. On est ensemble depuis 10 ans et on a dû vivre ensemble 3 ans, tout et pour tout. Les 3 années que j'ai passées ici pour l'instant.
Physiquement, ouais, c'est vrai.
J'avoue que Stéphanie, je l'adore, normalement c'est ma femme, mais en même temps, elle a vachement du mérite de pouvoir me supporter.
En fait, c'est Stéphanie qu'on aurait dû interviewer, dis donc.
Ouais. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est chez eux, donc là je regarde, moi je me disais, ils dorment ça, bon, en fait les filles, là, elles doivent regarder en boucle mon père, ce héros, mais je vois pas le DVD.
C'est en adoration devant le papa, ouais.
Non, mais tu as
du mérite, non, mais c'est vrai, moi je suis
en admiration. C'est la vie qui a vu ça, si tu veux. J'étais rentré dans la police pour faire
rien.
Du sport, donc,
ouais.
À la base. Donc,
mais c'est ça, parce que t'étais un sale gosse, ou tu volais des mobilettes, ou t'avais besoin d'un cadre, pourquoi
je peux pas trop en parler, parce que...
J'ai un casier judiciaire,
c'est ça.
Ça.
Non, parce que, non, mais t'as visé en pleine à 1000, quoi. T'es vraiment doué, je te dis.
C'est fou, quand même. Ouais.
Mais ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais, non, j'étais petit, j'étais assez timide et assez... je me faisais taper sur la gueule facilement.
Ah ouais. Bon, on va dire c'est péjoratif, le mouton noir.
Ouais, disons que j'étais un peu... j'avais très peur, j'étais très timide, quoi. Bon.
Ouais, introverti.
Très introverti, ouais.
Alors que maintenant, tu impressionnes.
Et alors, là, ça s'est développé comme ça, quoi, je veux dire, c'est pas...
Ouais. Tu t'es dit, maintenant, c'est
confiance
fini.
En toi.
Naturellement, c'est venu. Sinon, tu me disais, sur l'Afghanistan, une petite anecdote.
Ouais, j'avais envie de savoir, moi.
Est-ce que vous avez envie de connaître l'histoire de ma première rencontre avec le noir afghan?
Bah oui, vas-y.
Le noir afghan, c'est du café.
Non, oui, on peut dire ça. En fait, on avait l'habitude souvent de partir quand il y avait moins de bombes qui tombaient sur l'Afghanistan, que certaines accalmies. On avait un peu l'habitude de partir avec l'ambassadeur, faire le tour du pays, se balader un peu. Et on avait été invité du côté de Mazar-e-Sharif, donc dans le nord de l'Afghanistan, près de la frontière de l'Ouzbékistan, par l'Aga Khan, le prince Karim l'Aga Khan IV. L'histoire est assez rigolote parce que c'est le chef spirituel des Ismaéliens, qui est une branche des musulmans. Et historiquement, ce qui est rigolo, c'est que le créateur, le fondateur de cette branche ismaélienne, est un descendant du beau-frère de Mahomet. C'est pas des bêtises, c'est pas étonné. Vers le 8e siècle, qui a été surpris un jour en train de picoler, et il a été viré, et il a créé cette branche, et c'est une branche...
d'alcoolique.
Non, de tolérant. Donc on avait été invité par l'Aga Khan, qui a une fondation, et qui fait des trucs, des écoles pour les enfants. Et on part, 3 véhicules blindés, dans le nord. Tu fais 100 km, il te faut 6-7 heures, quoi. C'est quand même des chemins assez extraordinaires. Il y a notamment le tunnel du Salang, qui fait 15 km de long, aucune aération, une seule voie. Si tu croises un camion, c'est celui qui est plus fort, donc le camion, qui te demande de reculer, tu vois. Mais nous, on avait cet avantage, c'est qu'on descendait tous avec nos armes longues, tu sais, avec les flingues et tout ça, et le mec, il reculait automatiquement. Donc si tu tombes en panne aussi dans le tunnel, tu peux mourir quoi, parce que les gaz, l'échappement,
c'est fou quand même.
Mais bon voilà, et tu te retrouves vite à 3-4 000 mètres d'altitude, enfin, périple, tout ça, je vous passe les détails.
Mais c'est ça, c'est... Enfin, ce qui est un peu triste aussi, c'est que l'Afghanistan, c'est magnifique, non?
Ah, c'est extraordinaire.
Je trouve ça triste parce que finalement personne n'y va, enfin, à part toi.
J'ai vu les paysages.
Et ta femme.
Dans les années 70, il faut savoir que quand même c'était assez prisé. Hein. Tous les hippies du monde venaient en Afghanistan. Pour deux choses. Pour les paysages, évidemment. Pour changer un peu de Tombouctou.
De New Delhi, Katmandou.
De Katmandou.
Tombouctou.
De Katmandou.
C'est bon.
Donc, ils ont découvert l'Afghanistan. Et puis, bon, c'est le pays de l'opium, l'Afghanistan. Ouais. Il faut savoir que l'Afghan est le premier producteur d'opium dans le monde. Et du shit là, les drogues, genre les tablettes, tu sais, de l'herbe aussi à fumer, puis les tablettes machin. Et donc le noir afghan, qui est une espèce de tablette un peu huileuse, noire, et qui est le meilleur shit au monde, paraît-il.
Bon. Ah bon?
Paraît-il, j'en suis sûr maintenant. Et...
Bip, est-ce qu'on a le droit de passer ça là?
Et donc on va dans le nord, on redescend, les gardes de sécurité, plus la princesse Akram. Mmh. Qui était l'une des descendantes du roi Zahir Shah, l'ancien roi feu Zahir Shah, l'ancien roi d'Afghanistan, avant la démocratie. Bon, ouais, c'est pour ça qu'il y avait un sacré libéralisme. Et donc, il y avait elle, il y avait aussi une poétesse libanaise, le cuisinier de l'ambassadeur, un conseiller agricole, un petit jeune fumeur de joint super sympa, un cuisinier aussi fumeur de joint. Bon. Mmh. Le mec assez rigolo, tu vois, bon. Plus les gars en sécurité, et on redescend. Le dernier jour, donc, l'ambassadeur était parti, nous on était tous l'équipage tranquillou. Le dernier jour, avant d'attaquer le tunnel du Salam, le matin, on s'arrête dans un petit village. Les villages, c'était des petites rues genre moyenâgeuses.
Mais là, ça craint pas, là, ces coins-là.
Ben, ça craint, mais on était en véhicule blindé, on avait les armes et tout, tu vois.
Mais vous avez le droit, pendant votre trajet, vous avez le droit de sortir du véhicule et tout.
Mais oui, il faut qu'on respire un peu quand même.
Non, mais j'en sais rien.
Et à nos risques et périls, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas évident. Puis je te dis, c'était une époque où ça, il y avait une certaine accalmie, quoi. C'est assez calme. On s'arrête dans ce petit village, là, tranquille. Et puis tout d'un coup, on voit arriver un petit vieux. Le barbe blanche, tu sais, le turban, tu sais, machin. Genre, is no good, tu vois.
Is no good.
Je connais.
C'est génial. Ah ouais. Mais c'est tout à fait ça, tu vois. Avec un petit plateau, et le petit plateau en inox, et dessus, il y avait des couteaux faits à la main, artisanaux et tout. Et un petit savon, comme ça, un petit truc, genre une petite pierre, dans du papier alu. Le petit vieux, il ouvre le machin, et puis il y avait un morceau de noir afghan, que ce shit là, fabuleux, paraît-il.
Je suis déçue, moi je crois que t'allais nous raconter une fumette généralisée avec l'ambassadeur de France en Afghanistan.
Attends, c'est
la cacane.
T'as pas vu la chute?
Oui, attends.
Et alors le jeune il me dit, buvez notre thé, tranquille. Lionel, c'était en fait si je roule un petit pétard. Il roule un petit pétard. Et puis là il commence à faire tourner un peu.
C'est vrai qu'en Afghanistan, bon, ce qu'il faut dire là, parce que pour nos auditeurs qui sont peut-être pas pro-drogue douce, c'est que là on parle de quand même de drogue médicinale. Hein, parce que quand tu vis en Afghanistan, je pense qu'il faut quand même des trucs pour baisser le stress. Donc on va mettre ça dans l'usage médicinal.
Voilà, drogue c'est
douce.
Pour le bien-être en fait.
Voilà, c'est pour la survie mentale.
C'est ça, oui.
Oui, mais c'est pour une petite pointe d'humour dans un monde de brut.
Ouais, c'est ça.
Et donc voilà. Et il fait tourner le pétard, la princesse aussi commence à partir en live.
C'est dommage que ça n'existait pas Instagram à l'époque, ça aurait été drôle, Insta Story.
Ouais. C'est dommage, c'est peut-être tant mieux aussi. Ouais. Et donc là, il me dit, tu veux? Moi, je dis, allez, je vais pas mourir idiot, je prends une taf.
Ouais.
Je goûte, deuxième. Et puis moi je dis, bon allez les gars, on embarque dans les véhicules, faut y aller, le temps presse et tout. Et là, on ouvre les portes des véhicules, portes blindées, je rentre dans le véhicule, je me prends le montant de la porte de la voiture, en plein sur le front, bam, j'ai pas vu, je suis tombé sur le cul, j'étais complètement explosé, tout le monde mort de rire, j'ai dormi tout le trajet, je te raconte pas les chaos de la route, en plus comment ça...
Ah bah ouais, c'est pas des routes...
Donc voilà ma première expérience avec...
Et la dernière. Ouais, donc vraiment, t'as vécu des aventures hors normes. Alors maintenant, là, depuis 3 ans, tu t'ennuies en Uruguay. Alors pour passer le temps... qu'est-ce que tu fais? Tu fais des apéros avec Dorsa.
Chut, fallait pas y dire.
Alors ça aussi, pour lui, c'est médicinal. Il faut pas dire parce que...
Pour nous tous, c'est médicinal. Hein,
pour pallier l'ennui.
Attends, ils vont croire que je suis devenu alcoolique.
Non,
ils vont savoir, ils vont pas croire.
Je l'étais déjà. Non.
Et alors, et voilà. D'ailleurs, Lionel a également un talent caché. Je ne sais pas s'il va vouloir nous le faire partager. C'est que Lionel fait des parodies de chansons.
Non, mais il chante très bien, Lionel. Hein, c'est vrai.
Il a une voix. Il chante bien. Une voix rock.
Et
rock.
J'ai eu droit à deux chansons pour mon anniversaire. Hein. Il m'a composé des chansons quand même. Hein.
Des hommes préfèrent les brunes.
Ouais, c'était bon. Ça.
De Lio et une reprise de Lolita d'Alizé. Ouais.
C'était magnifique, c'est très bien fait.
Donc tu veux
des
pas
paroles adaptées
là,
quoi.
Là, tu ne sens pas évidemment nous chanter une petite chanson.
C'est un peu tôt là, non?
Tout le monde préfère que les hommes préfèrent
les blondes. Aïe 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 aïe.
Ils fondent pour une décolorée
et en moins d'une seconde.
Aïe 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 aïe. J'ai l'impression qu'ils confondent.
Quand à moi qu'on l'attend. C'est quand même bien une brune.
Là, c'était, en fait, la parodie, c'était. Et dors ça à moins qu'on l'attend. C'est quand même bien une brune.
Donc vous aurez deviné que dors ça n'est pas blonde. Hein.
Bah non, il y a assez de photos là sur les réseaux sociaux.
Vous voyez bien.
Voilà, en tout cas, j'étais très touchée. J'ai eu droit à ça le jour de mes 40 ans.
À 8 heures du
matin. Non, pas tes 40 ans, poulette.
Si, pour mes 40 ans, il l'a fait, et pour mes 41 ans.
Ah, d'accord.
Eh oui, chaque année, j'ai droit à ça, moi. Peut-être que toi aussi, pour l'année prochaine, t'auras droit à une chanson de Lionel.
Peut-être, ouais.
À voir s'il est inspiré. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir accordé ton temps. On va te libérer. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et merci pour toutes les anecdotes.
Plaisir.
Voilà, on connaît un peu mieux l'Afghanistan. On le voit différemment, en fait. Mm. Donc, si vous avez envie de vous marier là-bas, hein,
c'est possible.
Tout est possible. Voilà, c'est original.
Le plus dur, c'est de trouver
la personne qui va accepter.
Voilà, c'est ça.
Et juste, quand on dit que je m'ennuie ici, oui, c'est sûr que je m'ennuie ici, ça change vraiment de boulot, mais... je m'ennuie qu'au boulot, hein, parce que je suis très heureux de vivre en famille.
Bien sûr,
ma femme ne pense pas que
c'est professionnel.
Avec elle,
non, c'est pas du tout le cas.
On a compris.
On parlait vraiment
de ton interview. On a senti aussi tout l'amour que tu ressens pour elle et l'admiration.
Et mes filles,
on l'embrasse.
Et tes filles. T'es un homme à femme.
Oui, puis j'aime les gens. Donc,
ça se ressent.
On s'ennuie pas quand on aime les gens.
Non.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était
Lionel.
Cool. Merci. Salut Lionel.
Salut les filles. Salut tout le monde.
Allez, on lance la première chanson maintenant. Et j'avais très envie de diffuser un artiste qui n'est pas inconnu du grand public parce qu'il a fait la nouvelle star, tout ça. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime beaucoup ses chansons. Il s'appelle Icar. Et la chanson s'appelle Love You, Je te déteste. Icar que je suis sur Instagram. Et en plus, je trouve qu'il ressemble vachement à mon frère physiquement. Mais c'est
alors,
vrai,
sans
hein.
les cheveux, par contre.
Maintenant, non, mais dans son clip... l'expression du regard, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'il lui ressemble. Bon, bref, voilà. Et voilà, j'avais envie de le diffuser. Donc, on lance la chanson Icar, Love You, Je te déteste. C'est parti.
Même si je ne suis que le bruit qui poursuit la lumière d'un feu aux poudres. Je te suivrai comme le tonnerre poursuit l'éclair dans la foudre. Je serai la musique qui traîne durant ces scènes où tu t'envoles. Tant qu'on sera dans le même film, j'accepterai les seconds rôles. Je dis tout ça pour que tu restes, que tu ne changes pas de fusil d'épaule. Mais si tu insistes pour le geste, si tu insistes pour ce geste, fusille-moi.
Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai seul tout. Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai sans you. I love you.
J'aurais joué l'Indien modeste, je t'aurais laissé faire le cow-boy. J'aurais troqué ta tresse Cheyenne à ma détresse de bad boy. Je dis tout ça pour que tu restes, que tu ne changes pas de fusil d'épaule. Mais si tu insistes pour le geste, si tu insistes pour ce geste, fusille-moi.
Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai seul tout. Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai sans you. I love you. Je m'en sortirai seul.
Si je ne suis que le bruit qui poursuit la lumière, je te suivrai comme le tonnerre poursuit l'éclair.
t'en vas.
Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai seul tout. Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai sans you. Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai seul tout. Je te déteste, je te déteste. I love you, wish you the best. Et pour le reste, je m'en sortirai sans you.
Alors voilà, nous voici de retour et dans cette deuxième partie, en lien avec la première, parlons de ce sujet fascinant qui est l'expatriation.
Yeah.
Alors oui, c'est intéressant, tous ces expatriés qui ont quitté leur pays d'origine pour aller vivre ailleurs. Quel courage, quelle capacité d'adaptation, quelle vie riche d'un point de vue culturel, que de découvertes au quotidien. Mais la vie d'expat, ce n'est pas non plus que les Havaianas sur des jolis pieds pédicurés toute l'année et des cocktails à la main, non. Les belles photos que l'on voit sur les réseaux sociaux de nos potes partis à l'autre bout du monde ne reflètent pas toujours la réalité. Il y a aussi l'envers du décor. Partir, c'est flippant, même si on n'a pas envie de le montrer. Alors, on quitte tout, nous les femmes surtout, qui avions un job auparavant. On a suivi nos maris, on avait un job.
Et dis donc, hey, dors ça. C'est un peu sexiste, là, ce que tu dis. Des fois, il y a des...
C'est vrai, il y a des hommes qui ont suivi...
qui suivent leur conjointe.
C'est vrai, c'est vrai.
On va dire que c'est dur pour ceux qui, justement, suivent. Le suiveur, quoi.
Voilà, le suiveur, c'est toujours un peu plus difficile parce que le suiveur, il se retrouve dans un nouveau pays et il doit s'adapter, alors que celui qui a été envoyé par son job, il est occupé toute la journée, en fait, il a l'esprit occupé, mais donc la personne qui reste doit s'acclimater, puisqu'elle a toute la journée, en fait, pour ça. Alors, c'est difficile parce qu'on n'a plus nos amis de longue date avec qui boire des verres à l'heure de l'apéro, on n'a plus notre famille, bref, fini notre zone de
confort.
Mais c'est pas grave, car les expats sont très forts pour tout reconstruire, s'adapter à la nouvelle culture d'un pays. C'est un jeu d'enfant pour ceux qui bougent tous les deux ans dans un autre pays.
Surtout, vous avez remarqué que Dorsa, ce qui symbolise, elle, son adaptation, c'est de trouver un groupe de gens avec qui elle peut boire des coups, en fait.
Je l'ai trouvé.
C'est ce qui revient. Elle a pas parlé, quitter sa zone de confort, elle s'en fout de sa famille et tout ça. C'est ses amis de longue date avec qui tu peux boire des pots.
Bon, aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse, surtout par rapport aux expats, c'est le décalage qu'on peut trouver entre les expats qui ont bien bougé géographiquement et ceux qui restent, ceux qui n'ont jamais quitté leur pays d'origine. Alors, je suis tombée l'autre jour sur un blog qui expliquait très bien ça. Justement, il expliquait les différences marquantes entre les deux catégories de personnes. Alors, on va passer en revue quelques exemples, pas tous, et vous comprendrez mieux. Alors, la question de départ, c'est pourquoi les expatriés, donc les gens qui ont vécu longtemps loin de chez eux, peuvent être aussi agaçants, énervants aux yeux des autres qui n'ont pas eu la chance de bouger. Oui, c'est vrai, il y a un décalage culturel indéniable et un fossé se creuse progressivement. Le fait d'avoir voyagé et vécu dans d'autres pays du monde fait que nos personnalités vont différer de par notre ouverture d'esprit au changement. Alors, souvent, quand on revient dans notre pays, même en vacances, hein, comme toi, tu rentres en France, et moi en Suisse, alors on se rend compte que tout est resté comme lorsqu'on est parti et les mentalités n'ont pas changé. Et parfois, il y a une incompréhension. Alors, c'est vrai, on ne se comprend plus comme avant, car pendant tout ce temps où l'on s'est absenté, on s'est adapté et on a découvert d'autres horizons et les autres n'ont pas vécu tout ça.
Ou d'autres réalités. Alors, par exemple, petit clin d'œil à ma chère maman que je sais m'écoute, qui, par exemple, parfois se plaignait d'avoir attendu le métro 5 minutes un dimanche soir alors qu'elle revenait du ciné. Et moi, qui attends en pleine journée le 104 pour aller à la vieille ville mobile pendant une demi-heure.
Et puis si le 104 arrive, c'est déjà super. On est content. Voilà, le vrai décalage commence ici. Alors on commence avec les points importants. Alors premièrement, le mélange des langues qui vire souvent au ridicule. Hein,
donc, oui, le syndrome
Jean-Claude Van Damme.
Voilà.
Voilà. Donc maintenant, on le comprend, hein, Jean-Claude Van Damme qui a vécu, je ne sais pas s'il vit encore aux États-Unis, mais en tout cas, il a vécu de très longues années aux États-Unis. Il en a perdu son français. À force de parler dans sa nouvelle langue, on en perd notre français, c'est vrai. On ne fait pas exprès, vraiment. Hein. Souvent, on pourrait croire qu'on le fait exprès, mais non, on ne le fait pas exprès.
C'est pas pour se la jouer.
On se la pète pas, hein. C'est comme ça, on mélange les deux langues. Même mes enfants me font une bonne soupe linguistique tous les jours, à la sortie de l'école. Et ça donne, genre... mais on peut pas mezcler les couleurs. Hein. Alors, mezclar en espagnol, qui veut dire mélanger. Ou alors, je sais pas, oui, on va lui régaler un cadeau.
Non,
régaler, donc offrir. Non, en fait, c'est pas ça. Offrir, on dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, on n'est plus du tout aware, en fait. Hein. Donc, voilà. C'est ça. Petit clin d'œil à Jean-Claude Van Damme. Deuxième point, la conduite automobile. Alors, parlons-en. Surtout ici, en Uruguay, il faut quand même s'accrocher, car j'ai l'impression que les priorités n'existent pas. Et si on a le malheur de s'arrêter à un stop, on se fait klaxonner. Car finalement, à quoi bon s'arrêter un stop?
Mais oui, ça veut dire stop, stop, céder le passage. Alors moi, j'ai une anecdote. Un jour, donc je prends la voiture avec une associée suisse sur un projet radio sur Internet. Je ne vous citerai pas son nom. Nous arrivons à un croisement de rue et là, nous passons à l'orange. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Tu passes à l'orange? Eh oui, parce qu'après 2 ans en Uruguay, voilà. C'était...
Il faut accélérer, en fait, ouais. À fond, quoi.
Orange ne veut pas dire arrête-toi si tu peux. Non. Ça veut dire passe.
Troisième point, l'enthousiasme de l'expatrié du tout est possible, un peu American Dream. Et oui, l'expat s'est libéré de ses contraintes. Il a pris confiance en lui. Voilà, ça fait un moment qu'il est parti et il est prêt à tenter de nouvelles choses et a moins peur des challenges. Comme nous, finalement.
Mais oui.
C'est un peu l'occasion de se lancer, quoi. Donc, cette frénésie peut agacer les non-expats. Quatrième point, la déconnexion par rapport à certaines réalités. L'expat est sur un autre rythme. Et lorsqu'il revient dans son pays, il a du mal à comprendre pourquoi tout le monde fait la gueule dans les transports publics, pourquoi les chauffeurs de taxi sont si désagréables et aussi pourquoi les légumes sont aussi chers. Bon, nous, on habite en Uruguay, c'est super cher ici, donc on n'est pas trop dépaysé niveau prix. Hein. Bref, l'expat est dépassé par la réalité.
Mais ça, c'est un expat qui rentre en France
voilà,
aussi.
Voilà, exactement.
Parce que en Suisse, ils sont pas sympas non plus.
Bah, dans les transports publics.
Les gens font la tête aussi.
Bah, quand même, quoi.
Ouais.
Ouais. Je vais me déplacer en licorne quand je vais rentrer en Suisse. Petit clin d'œil à ma copine Stéphanie qui comprendra. Alors, dernier point important et criant de vérité. La notion du chez-soi. L'expat est sans cesse en mouvement et il a vécu dans plein d'endroits et continue en fait à s'adapter partout où il va. Donc pour l'expat, la maison, c'est partout en fait. Donc Charlotte l'expliquait très bien, je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode numéro 2 de La Petite Radio, elle l'expliquait très bien, elle disait qu'en fait son chez-elle, c'était pas plus la France que la Colombie ou ailleurs en fait. Hein.
Oui, il y a une notion un peu de si tu voyages avec ta famille, je pense que ton pays c'est là où,
exactement.
Où ta famille est.
Voilà, exactement. Donc, cette notion de chez soi, voilà, elle est relative. Voilà, donc vaste sujet, l'expatriation. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un décalage. On a toujours beaucoup de plaisir à revoir nos proches, hein, bien sûr. Ça sera pas mal compris. Hein. J'arrive en juillet, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, vaste sujet. On va reparler de l'expatriation, c'est sûr, avec d'autres intervenants également.
Moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit, qu'effectivement, je pense que quand tu es en expat, quand tu quittes ton pays et que justement, tu n'arrives pas avec un travail sur place, comme c'est notre cas. Finalement, oui, bon, t'es à la maison, comme nous, t'as des enfants en bas âge, voilà, c'est une opportunité pour t'occuper des enfants en bas âge et tout ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'as envie de faire d'autres choses. Du coup, ça t'oblige effectivement à sortir de ta fameuse zone de confort et à tenter des nouvelles choses. Et finalement, quand tu tentes ces nouvelles choses, t'as des nouvelles opportunités qui se
d'autres
présentent.
D'autres portes s'ouvrent, ouais, exactement.
Qu'effectivement, si t'étais resté sur tes rails dans ton pays,
tu les aurais pas pas faites, hein, je pense.
Tu les aurais pas faites, mais ce serait même pas présenté.
Ce serait pas présenté, exactement.
Là, finalement, t'es chez toi, tu viens.
T'es un peu livré quand t'arrives dans un pays, t'es un peu livré à toi-même, donc tu regardes plus, t'as une plus grande perspective.
Voilà, tes radars, t'as comme des radars personnels qui sont plus à l'écoute en disant, tiens, bah ça, par exemple, quand Dorsa est venue me proposer la petite radio, ça m'était jamais venu à la tête. Mais bon, je me suis dit, bah tiens, ça peut être une distraction sympathique à avoir. Et voilà. J'ai une grande nouvelle pour nos auditeurs aussi qui ont écouté l'épisode 11.
Attends, rappelle aux auditeurs l'épisode 11 qui était sur...
Les bonnes manières. Voilà. Donc, Dorsa m'a invitée à déjeuner chez elle.
Ouais. J'ai invité Tiffaine, alors il faut pas que tu manges avec les doigts.
Un assado.
C'est vrai, on fait un assado dans le jardin. Et tu es venue les mains vides, c'est très bien.
Voilà.
C'est ce qu'il faut faire. Ça m'embête, j'aurais bien voulu que t'amènes une petite bouteille de vin ou des fleurs, mais bon.
Ça arrive demain.
Tu vas les faire livrer, mais bien sûr. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde de nous suivre et continuer évidemment sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, Facebook, Twitter, Instagram. Tiffaine, je te laisse envoyer la chanson.
Nous allons passer une chanson de rap. C'est du rap un peu fusion, pas hyper hardcore, mais quand même. Donc c'est un groupe canadien, Clay and Friends, et ça s'appelle Dans ma cité.
C'est parti. Salut à tous.
Salut à tous.
Dans ma cité, y a des malades, fument du verre pour chasser leur blues. Dans ma cité, y a des sorcières, car à elle et à leur vaudou. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say. Tatoués sur les rues qui délimitent habilement la destinée de ceux qui les habitent. Mes rêves sur la corde à linge, partis au vent. Ma carte de crédit deviendra tapis volant. C'est pas la fuite qui compte, mais l'atterrissage. Mon frigo vide qui réveille le voisinage. L'été s'étire, s'allonge, s'allume une cigarette sur papier. Je tisse l'art avant de disparaître. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say. Dans ces jeux de société, aux règles de fou, Jean Leloup crie à un jour, à quoi je joue. Les bouches dégoût chantent à ceux qui speak tard. Les blacks qui speak white, les blancs qui speak noir. L'accent fait à la main, sort des lèvres du rappeur. La mort de l'ego, des rap vite sur la peur. Les pauvres blâment les riches, traitent de pickpocket. Tous les doigts se pointent en forme de pistolet. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la. I'm looking out, I say la. Dans ma cité, vous mangez tout, essayez. Y'a pas moyen de gagner, non, non. I'm looking out, I say la.
La petite radio.